studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Famba, bonsoir. Les hommes en armes ont arrêté hier dans la soirée l'un des soutiens du candidat Soumaïla Cissé. Le ministère de la Sécurité affirme qu'il n'est pas concerné par cette affaire. Avec ce rebondissement, on se demande si le pays ne se dirige pas vers une crise post-électorale. L'après-élection présidentielle commence donc à préoccuper plus d'un. Les uns et les autres sont interpellés pour éviter une éventuelle crise. Parmi eux, les leaders religieux. Mais que peut-on attendre de ces derniers? Rien selon certains analystes. Le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel était à Bamako ce samedi. Le général mauritanien Anena Ould Sidi remplace le général malien Didier Dako, remercié après l'attaque contre le quartier général de la force à Sévaré. Auditrice, auditeur, bienvenue. Contestation des résultats de la présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle, la tension semble monter d'un cran avec l'arrestation hier dans la soirée par des hommes en armes d'un des soutiens du candidat Soumaïla Cissé du nom de Paul Ismaël Boro chez lui. Officiellement, on ne sait pas encore où il serait détenu, ni les mobiles de cette arrestation. Le ministère de la Sécurité dit ne pas être concerné par l'affaire. Les camarades politiques de l'intéressé dénoncent un enlèvement et règlement de comptes politiques, tandis que d'autres sources proche de la majorité, évoque une affaire de droit commun. Explication, Mariam Koulibaly.
À ce stade, on en sait très peu sur les mobiles de cette arrestation. Paul Ismaël Boro a été arrêté, puis amené par des individus armés non identifiés dans la soirée de dimanche à lundi 27 août. Difficile d'en savoir plus sur son lieu de détention, ni encore les vraies motivations de cette arrestation. Joint par notre rédaction, le ministère de la Sécurité exclut toute implication de la police et de la gendarmerie dans cette affaire. On n'a rien à voir avec cette arrestation, nous déclare-t-on. Ancien directeur du Centre international de conférence de Bamako, Paul Ismaël Boro serait arrêté pour une affaire de malversation, expliquent certaines sources proches de la majorité présidentielle qui annoncent qu'il a été à cet effet entendu plusieurs fois par le pôle judiciaire et économique de Bamako. Faux, rétorquent les partisans de Soumaïla Cissé qui dénoncent un enlèvement et un règlement de compte politique. Si c'est une affaire de détournement de fonds, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté depuis son limogeage en juillet 2016. S'interroge le soutien de Paul Ismaël Boro, ancien cadre du parti au pouvoir RPM dont il avait démissionné en juillet 2017. Paul Ismaël Boro a été dans le staff de campagne du candidat Modibo Kone. Alors que ce dernier a appelé à voter Ibeka au second tour, M. Boro décide de rejoindre Soumaïla Cissé. Il a activement participé aux récentes contestations contre le régime, dont les marches contre la révision constitutionnelle et celles de l'opposition contre la fraude et bourrage d'urnes.
Selon certaines sources, Paul Ismaël Boro serait impliqué dans l'achat d'armes devant servir à tirer sur les forces de l'ordre pendant les manifestations. Le directeur de campagne de Soumaïla Cissé, qui était l'invité de RFI, dément catégoriquement cette information. Tchibili Dramé regrette une cabale contre Paul Boro pour son choix politique. La direction de campagne du candidat de l'URD tient en ce moment même une conférence de presse sur la question. Les récentes marches de contestation organisées par l'opposition contre le verdict de la Cour constitutionnelle laissent planer la menace d'une crise post-électorale sur le Mali. Alors, que peuvent faire les leaders religieux pour éviter ce scénario? Pour certains analystes, il ne faut rien attendre d'eux dès qu'ils sont devenus acteurs politiques eux-mêmes. Selon ces observateurs, l'irruption du religieux sur la scène politique a provoqué une fracture dans notre société. Professeur Issa Ndiaye, philosophe, chercheur à l'Université de Bamako, joint par Adama Aydara.
Les résultats aussi des élections ont contribué donc à les discréditer quelque peu. Parce que ceux qui ont appelé parmi eux à voter publiquement pour un camp, en l'occurrence celui de Nioro, et puis aussi le président du Haut Conseil islamique qui dit suivre celui de Nioro, leur candidat a pu l'attaque, qui veut dire que les électeurs ne les ont pas suivis. Les religieux ne doivent avoir aucun rôle sur le plan politique. Je pense que c'est une frontière à ne pas franchir. Ils sont allés trop loin, peut-être sauf si une nouvelle génération donc, de dirigeants religieux et qui comprennent cela et s'interdisent donc le champ du politique. Les religieux doivent se concentrer sur leur rôle traditionnel qu'ils jouaient dans le temps. C'est-à-dire, ce sont des gens donc, qui s'occupent du spirituel dans une société. Mais quand les religieux eux-mêmes ne suivent pas les enseignements moraux qu'ils prodiguent dans les mosquées, ça pose un problème. Le leader religieux doit être neutre politiquement.
Vous pouvez réagir à ces informations sur la page Facebook des studios Tamani, sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 ou au 75 84 12 12. Le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Anena Ould Sidi, a effectué ce samedi une visite à Bamako. Cet officier mauritanien a été nommé commandant de la force G5 Sahel à la place du général malien Didier Dako, remercié après l'attaque qui a détruit le vendredi 29 juin dernier le quartier général de la force à Sévaré. Intala Akbilal.
Cette rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence de l'état-major général des armées. Elle s'inscrit selon des sources militaires dans le cadre de la prise des fonctions du nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Âgé d'une soixantaine d'années, le nouveau patron de la force conjointe, le général Hanina Ould Sidi, a fait ses classes à l'école militaire de Meknès au Maroc. Il rejoint l'armée de terre mauritanienne et gravit les échelons jusqu'à devenir inspecteur général des forces armées avant d'intégrer l'état-major. Le général Hanina Ould Sidi a notamment commandé les unités mauritaniennes déployées sous mandat de l'ONU en Côte d'Ivoire et en Centrafrique. Il a également dirigé le renseignement militaire en Mauritanie, un domaine dans lequel le G5 Sahel a démontré ses lacunes. Selon des experts en sécurité, avec Hanina Ould Sidi, on change de ton. On s'attend à une véritable reprise en main sécuritaire.
Plusieurs ménageurs sont sans abri dans les localités de Gassal et Inamassor dans la commune de Tessit depuis plusieurs jours. Les cases qu'ils abritaient ont été emportées par la tornade du 20 août dernier. Depuis lors, ces populations n'auraient bénéficié d'aucune assistance et lancent un SOS à l'État et aux ONG. Des récits de notre correspondant à Tessit, Mohamed Lamine Cissé.
Des cases effondrées et des gros arbres déracinés, les décors qu'affichaient les localités de Gassal et Inamassor lundi dernier n'étaient pas reluisants. La tornade était passée par là. Pas de morts, mais on déplore un blessé et handicapé. Ibrahim Agel Hosseini, chef de fraction, nous décrit les faits.
La pluie de lundi soir au mardi a causé des dégâts chez nous. Des cases qui sont cassées. Les grands arbres, tout est cassé. J'ai appelé les maires. Je l'ai averti. Les sinistrés vivent des situations lamentables. Certains ont pu faire des petits hangars. D'autres, ils sont sous les arbres. Il n'y a pas de classe.
Certains sinistrés sont encore sous les arbres et d'autres sous des abris de fortune. Ces derniers vivent des moments difficiles et demandent aux autorités et aux ONG de les aider.
Depuis l'arrivée de cette pluie, nous sommes sans abri. Certains utilisent leur couverture pour faire des abris. D'autres sont sous les arbres. Les enfants tombent malades à cause des moustiques car les gens n'ont rien pour se protéger. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide.
Du côté des autorités, on affirme que des dispositions sont en cours pour recaser ces sinistrés. Toutefois, le maire de la commune rurale de Tessit dit compter sur le soutien des partenaires. Hamad Ibrahim Agefanfan, maire de la commune rurale de Tessit.
Ce qui a été fait déjà, c'est les abris, l'aide sociale. Nous comptons faire déjà un camp de sinistrés. Ce n'est pas à Gassal seulement, mais peut-être tant un peu là, et puis quelques trucs de paille, d'informer tous les partenaires qui veulent vraiment nous venir en aide par rapport à ces sinistres.
En attendant que les bonnes volontés s'affirment, les sinistrés vivent encore dans la peur, l'hivernage n'étant pas encore fini. De Tessit, Mohamed Lamine Cissé pour Studio Tamani.
Sport basketball, après le sacre des filles à Maputo au Mozambique, place aux garçons, la fête de la balle au panier bat donc au son plein à Bamako depuis le 24 août au palais des sports Salamata Maïga. Les Aiglons se sont qualifiés hier pour les quarts de finale de l'Afrobasket des moins de 18 ans. Deux points avec Maria Maïga.
Grâce à ses 3 victoires en 3 matchs, le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket des garçons des moins de 18 ans. Dimanche, lors des derniers matchs de poule, les Aiglons ont largement battu l'Égypte 93 à 47. Lors de cette rencontre considérée comme le duel des deux grands favoris au titre, au moins 6 joueurs maliens ont terminé avec plus de 10 points. Durant les 2 premiers matchs, les Aiglons maliens ont atteint la barre des 100. Ils ont laminé dans leur premier match la Guinée 141 à 49. Ensuite, ils se sont débarrassés de l'Ouganda sur le score de 112 à 55. L'adversaire du Mali en quart de finale n'est toujours pas connu car les matchs de poule se poursuivent jusqu'au mercredi prochain. 12 pays participent à ce tournoi de Bamako. À l'Afrobasket de 2016, tenu à Kigali au Rwanda, le Mali a terminé 3e de la compétition, derrière l'Égypte 2e et l'Angola 1er.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale, les opérations de paiement des primes aux producteurs de coton pour la campagne 2017-2018 sont pratiquement à leur terme à Kita. Selon le premier vice-président de la Chambre locale d'agriculture, les paysans sont satisfaits des modalités de paiement qui s'effectuent au moment opportun. Le coût du financement s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. Moins d'une semaine après la crue du marigot, les agriculteurs de Goundam poursuivent le renforcement de la digue de protection des cultures dans le lac Télé. Cette opération, qui s'étendra sur plusieurs mois, vise à surélever cette digue de 25 km afin d'éviter l'immersion des cultures. Selon le service local de l'agriculture, la crue se passe normalement et la situation phytosanitaire est satisfaisante. Un nouveau-né a été retrouvé hier derrière l'hôpital de Gao à Sosokoira par une femme. La gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver la mère de l'enfant. Selon certaines sources, il aurait été retrouvé le jour de sa naissance. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rendu visite ce matin aux élèves sapeurs-pompiers en formation à Ségou. Cette visite du général de brigade Salif Traoré vise à s'enquérir des conditions de déroulement de la formation et du moral des jeunes recrues. Cette formation commune de base militaire de 4 mois a regroupé 350 jeunes, dont plus de 100 filles. Le Grand Dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est à suivre dans quelques minutes avec Mohamedou Touré. Bonsoir.
Bonsoir, c'est Edou Fomba.
De quoi traite le Grand Dialogue de ce soir?
Alors, le thème est le suivant. Faut-il craindre une crise post-électorale? Et nos invités sont Issoufi Yago, représentant de la majorité présidentielle, Mohamed Salia Touré, représentant de l'opposition, et Dr Ali Tunkara, sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako.
Bon débat, et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec une mise en onde de Péting Diarra. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les magazines.